Armance, suite 8.
Chapitre 28. This is the state of man. Today he puts forth the tender leaves of hope, tomorrow blossoms, and bears his blushing honours thick upon him. The third day comes a frost, a killing frost, and then he falls. See his character. King Henry VIII.
Dès le lendemain, de fort bonne heure, Madame de Malivert vint à Paris proposer à son mari le mariage d'Octave. Il batailla pendant toute la journée. « Ce n'est pas, disait le marquis, que je ne m'attende depuis longtemps à cette fâcheuse proposition. C'est à tort que je ferai l'étonner. Mademoiselle de Zoïloff ne manque pas absolument de fortune, j'en conviens. Ses oncles russes sont morts fort à propos pour elle. Mais cette fortune n'excède pas ce que nous pourrions trouver ailleurs. Et ce qui est de la plus grande conséquence pour mon fils, il n'y a pas de famille dans cette alliance. Je n'y vois qu'une funeste analogie de caractère. Octave n'a pas assez de parents dans la société, et sa manière d'être, tout en dedans, ne lui donne pas d'amis. Il sera père après son cousin et après moi, voilà tout. Et comme vous le savez, ma bonne amie, en France, tant vaut l'homme, tant vaut la place. Je suis de la vieille génération, comme disent ces insolents. Je disparaîtrai bientôt, et avec moi, tous les liens que mon fils peut avoir avec la société. Car il est un instrument de notre chère marquise de Bonnivet, mais n'est pas un objet pour elle. Il fallait chercher, en mariant Octave, des appuis dans le monde plutôt même que de la fortune. Je lui vois un de ses mérites distingués, si vous voulez, pour réussir tout seul. J'ai toujours vu que ces gens si sublimes ont besoin d'être prônés. Et mon fils, loin de flatter les faiseurs de réputation, semble trouver un malin plaisir à les braver et à leur rompre en visière. Ce n'est pas ainsi qu'on réussit. Avec une famille nombreuse et bien établie, il eût passé dans la société pour être digne du ministère. Il n'est vanté par personne. Il ne sera qu'un original. Madame de Malivert se récria beaucoup sur ce mot. Elle voyait que quelqu'un avait chambré son mari. Il continua de plus belle. « Oui, ma bonne amie, je ne voudrais pas jurer que la facilité à se piquer que montre Octave et sa passion pour ce qu'on appelle des principes, depuis que les Jacobins ont tout changé parmi nous, même notre langue, ne le jettent un jour en la pire des sottises, dans ce que vous appelez l'opposition. » Le seul homme marquant qu'ait eu votre opposition, le comte de Mirabeau, a fini par se vendre. C'est un vilain dénouement et que je ne voudrais pas non plus pour mon fils. Et c'est aussi ce que vous ne devez pas craindre, répliqua vivement Madame de Malivert. Non, c'est dans le précipice opposé qu'ira s'engloutir la fortune de mon fils. Ce mariage-ci n'en fera qu'un bourgeois vivant au fond de sa province, claquemuré dans son château. Son caractère sombre ne le porte déjà que trop à ce genre de vie. Notre chère Armance a de la bizarrerie dans la manière de voir. Loin de tendre à changer ce que je trouve à reprendre chez Octave, elle fortifiera ses habitudes bourgeoises, et par ce mariage, vous abîmez notre famille. Octave est appelé à la chambre des pairs. Il y sera un noble représentant de la jeunesse française. Et par son éloquence, conquérera de la considération personnelle. Il y a presse. Tous ces jeunes pères prétendent à l'éloquence. Eh, mon Dieu, ils seront dans leur chambre comme dans le monde, parfaitement polis, fort instruits, et voilà tout. Tous ces jeunes représentants de la jeunesse française seront les plus grands ennemis d'Octave, qui a au moins une manière de sentir originale. Madame de Malivert revint fort tard à Andilly avec une lettre charmante pour Armance, dans laquelle M. de Malivert lui demandait sa main pour Octave. Quoique bien fatiguée de sa journée, Madame de Malivert s'empressa de passer chez Madame de Bonnivet, qui ne devait apprendre ce mariage que par elle. Elle lui fit voir la lettre de Monsieur de Malivert à Armance. Elle était bien aise de prendre cette précaution contre les gens qui pourraient faire changer l'opinion de son mari. Cette démarche était d'ailleurs nécessaire. La marquise était en quelque sorte la tutrice d'Armance. Ce titre lui ferma la bouche. Madame de Malivert fut reconnaissante de l'amitié dont Madame de Maudivet fit preuve pour Octave en n'ayant point l'air au fond d'approuver ce mariage. La marquise se renferma dans les grandes louanges du caractère de Mademoiselle de Zoïloff. Madame de Malivert n'eut garde d'oublier la démarche qu'elle avait faite auprès d'Armance plusieurs mois auparavant, et le noble refus de la jeune orpheline, alors sans fortune. Eh, ce ne sont pas les nobles qualités d'Armance sur lesquelles mon amitié pour Octave a besoin d'être ranimée, dit la marquise. Elle ne tient à quelque chose que par nous. Ces mariages de famille ne conviennent qu'avec des banquiers puissamment riches. Comme leur principal but est l'argent, ils sont certains de le trouver et sans procès. Nous marchons vers un temps, répliquait Madame de Malivert, où la faveur de la cour, à moins qu'on ne veuille l'acheter par des soins personnels de tous les instants, ne sera qu'un objet secondaire pour un homme de grande naissance, pair de France et fort riche. Voyez notre ami Milord N. Son immense crédit dans son pays provient de ce qu'il nomme 11 membres de la Chambre des communes. Du reste, il ne voit jamais le roi. Telle fut aussi la réponse de Madame de Malivert aux objections de son frère, dont l'opposition fut beaucoup plus vive. Furieux de la scène de la veille, et comptant bien ne pas laisser échapper l'occasion de feindre une grande colère, il voulait, lorsqu'il se laisserait apaiser, placer son neveu sous le poids d'une reconnaissance éternelle. Il eût pardonné à Octave tout seul, car enfin il fallait ou pardonner ou renoncer au rêve de fortune qui l'occupait exclusivement depuis un an. À l'égard de la scène de la nuit, sa vanité aurait eu pour consolation auprès de ses intimes la folie bien reconnue d'Octave, qui jetait par les fenêtres les laquais de sa mère. Mais l'idée d'Armance, toute puissante sur le cœur d'un mari qui l'aimait à la folie, décida M. de Soubirane à déclarer que de sa vie il ne reparaîtrait à Andilly. On était fort heureux à Andilly, on le prit au mot en quelque sorte, et après lui avoir fait toutes sortes d'excuses et d'avances, on l'oublia. Depuis qu'il s'était vu fortifié par l'arrivée du chevalier de Bonnivet qui le fournissait de bonnes raisons, et dans l'occasion de phrases toutes faites, son éloignement pour Mademoiselle de Zoïloff était devenu de la haine. Il ne lui pardonnait pas ses allusions à la bravoure russe déployée devant les murs d'Ismaïlov, tandis que les chevaliers de Malte, ennemis jurés des Turcs, se reposaient sur leurs rochers. Le commandeur eût oublié une épigramme qu'il avait provoquée, mais le fait est qu'il y avait de l'argent au fond de toute cette colère contre Armance. La tête assez faible du commandeur était absolument tournée de l'idée de faire une grande fortune à la bourse. Comme chez toutes les âmes communes, vers les 50 ans, l'intérêt qu'il prenait aux choses de ce monde s'était anéanti, et l'ennui avait paru. Comme de coutume encore, le commandeur avait voulu être successivement homme de lettres, intrigant politique et dilettante de l'opéra italien. Je ne sais quel malentendu l'avait empêché d'être jésuite de robe courte. Enfin, le jeu de la bourse avait paru, et s'était trouvé un souverain remède à un immense ennui. Mais pour jouer à la bourse, il ne lui manquait que des fonds et du crédit. L'indemnité s'était présentée fort à propos, et le commandeur avait juré qu'il dirigerait facilement son neveu qui n'était qu'un philosophe. Il comptait fermement porter à la bourse une bonne part de ce qu'Octave recevrait pour l'indemnité de sa mère. Au plus beau de sa passion pour les millions, Armance s'était présenté au commandeur comme un obstacle invincible. Maintenant, son admission dans la famille anéantissait à jamais son crédit sur son neveu et ses châteaux en Espagne. Le commandeur ne perdait pas son temps à Paris et allait ameutant contre le mariage de son neveu chez madame la duchesse de C, protectrice de la famille, madame la duchesse d'Ancre, madame de la Ronze, madame de Clay, avec lesquelles il passait sa vie. L'inconvenance de cette alliance fut bientôt décidée par tous les amis de la famille. En moins de 8 jours, le mariage du jeune vicomte fut connu de tout le monde, et non moins généralement blâmé. Les grandes dames qui avaient des filles à marier étaient furieuses. « Madame de Malivert, disait la comtesse de Clay, a la cruauté de forcer ce pauvre Octave à épouser sa dame de compagnie. Apparemment, pour épargner les gages qu'elle aurait dû payer à cette fille, c'est à faire pitié. » Au milieu de tout cela, le commandeur se croyait oublié à Paris, où il mourait d'ennui. Le cri général contre le mariage d'Octave ne pouvait pas être plus éternel qu'autre chose. Il fallait profiter de ce déchaînement universel pendant qu'il existait. On ne rompt les mariages arrêtés que de fort près. Enfin, toutes ces bonnes raisons et l'ennui firent qu'un beau matin, l'on vit arriver le commandeur à Andilly, où il reprit sa chambre et son train de vie ordinaire, comme si de rien n'eût été. On fut très poli envers le nouvel arrivant, qui ne manqua pas de faire à sa future nièce les avances les plus empressées. « L'amitié a ses illusions, non moins que l'amour, » dit-il à Armance. « Et si j'ai blâmé d'abord un certain arrangement, c'est que moi aussi j'aime Octave avec passion. »
Chapitre 29. Ses mots les plus cruels sont ceux qu'il se fait lui-même. Balzac.
Armance eût pu être trompée par ses avances polies, mais elle ne s'arrêta pas à penser au commandeur. Elle avait d'autres sujets d'inquiétude. Depuis que rien ne s'opposait plus à son mariage, Octave avait des accès d'humeur noire qu'il pouvait à peine dissimuler. Il prenait le prétexte de maux de tête violents et allait se promener seul dans les bois des Couans et de Senlis. Il faisait quelquefois 7 ou 8 lieues de suite au galop. Ces symptômes parurent funestes à Armance. Elle remarqua qu'en de certains moments, il la regardait avec des yeux où le soupçon se peignait plus que l'amour. Il est vrai que ces accès d'humeur sombre se terminaient souvent par des transports d'amour et par un abandon passionné qu'elle ne lui avait jamais vu du temps de leur bonheur. C'est ainsi qu'elle commençait à appeler, en écrivant à Méry de Tersan, le temps qui s'était écoulé entre la blessure d'Octave et la fatale imprudence qu'elle avait faite en se cachant dans le cabinet près de la chambre du commandeur. Depuis la déclaration de son mariage, Armance avait eu la consolation de pouvoir ouvrir son cœur à son ami intime. Méry, élevée dans une famille fort désunie et toujours agitée par des intrigues nouvelles, était fort capable de lui donner des conseils sensés. Pendant une de ces longues promenades qu'elle faisait avec Octave dans le jardin du château et sous les fenêtres de madame de Malivert, Armance lui dit un jour « Votre tristesse a quelque chose de si extraordinaire que moi, qui vous aime uniquement au monde, j'ai eu besoin de prendre conseil d'une amie avant d'oser vous parler comme je vais le faire. Vous étiez plus heureux avant cette nuit cruelle où je fus si imprudente. » Et je n'ai pas besoin de vous dire que tout mon bonheur a disparu bien plus rapidement que le vôtre. J'ai une proposition à vous faire. Revenons à un état parfaitement heureux et à cette douce intimité qui a fait le charme de ma vie depuis que j'ai su que vous m'aimiez jusqu'à cette fatale idée de mariage. Je prendrai sur moi toute la bizarrerie du changement. Je dirai au monde que j'ai fait vœu de ne jamais me marier. On blâmera cette idée. Elle nuira à l'opinion que quelques amis veulent bien avoir de moi. Que m'importe. L'opinion, après tout, n'est importante pour une fille riche qu'autant qu'elle songe à se marier. Or, certainement, jamais je ne me marierai. » Pour toute réponse, Octave lui prit la main, et d'abondantes larmes s'échappèrent de ses yeux. Oh, mon cher ange, lui dit-il, combien vous valez mieux que moi. La vue de ces larmes chez un homme peu sujet à une telle faiblesse, et ce mot si simple, déconcertèrent toute la résolution d'Armance. Enfin, elle lui dit avec effort. « Répondez-moi, mon ami, acceptez une proposition qui va me rendre le bonheur. Nous n'en passerons pas moins notre vie ensemble. » Elle vit un domestique s'avancer. « Le déjeuner va sonner, » ajouta-t-elle avec trouble. « Monsieur votre père arrivera de Paris. Ensuite, je ne pourrai plus vous parler, et si je ne vous parle pas, je serai malheureuse et agitée encore toute cette journée, car je douterai un peu de vous. »
« Vous, doutez de moi ?»
dit Octave avec un regard qui, pour un instant, dissipa toutes les craintes d'Armance. Après quelques minutes de promenade silencieuse, « Non, Octave, reprit Armance, je ne doute pas de vous. Si je doutais de votre amour, j'espère que Dieu me ferait la grâce de mourir. Mais enfin, vous êtes moins heureux depuis que votre mariage est décidé.
« Je vous parlerai comme à moi-même, » dit Octave avec impétuosité. « Il y a des moments où je suis beaucoup plus heureux, car enfin j'ai la certitude que rien au monde ne pourra me séparer de vous. Je pourrai vous voir et vous parler à toute heure, mais... » ajouta-t-il, et il tomba dans un de ces moments de silence sombre qui faisait le désespoir d'Armance.
La crainte de la cloche du déjeuner qui allait les séparer pour toute la journée peut-être lui donna pour la seconde fois le courage d'interrompre la rêverie d'Octave.
« Mais quoi, cher ami ? » lui dit-elle. « Dites-moi tout. Ce mets affreux va me rendre 100 fois plus malheureuse que tout ce que vous pourriez ajouter. »
« Eh bien, » dit Octave en s'arrêtant, se tournant vers elle et la regardant fixement. Non plus comme un amant, mais de façon à voir ce qu'elle allait penser. « Vous saurez tout. La mort me serait moins pénible que le récit que je dois vous faire. Mais aussi, je vous aime bien plus que la vie. Ai-je besoin de vous jurer, non plus comme votre amant ?» Et dans ce moment, ses regards n'étaient plus en effet ceux d'un amant. « Mais en honnête homme, et comme je le jurerais à monsieur votre père si la bonté du ciel nous l'eût conservé. Ai-je besoin de vous jurer que je vous aime uniquement au monde, comme jamais je n'ai aimé, comme jamais je n'aimerai? Être séparé de vous serait la mort pour moi, et 100 fois pire que la mort. Mais j'ai un secret affreux, que jamais je n'ai confié à personne. Ce secret va vous expliquer mes fatales bizarreries. » En disant ces mots mal articulés, les traits d'Octave se contractèrent. Il y avait de l'égarement dans ses yeux. On eût dit qu'il ne voyait plus Armance. Des mouvements convulsifs agitaient ses lèvres. Armance, plus malheureuse que lui, s'appuya sur une caisse d'orangers. Elle tressaillit en reconnaissant cet oranger fatal auprès duquel elle s'était évanouie lorsque Octave lui parla durement après la nuit passée dans la forêt. Octave était arrêté droit devant elle, comme frappé d'horreur, et n'osant continuer. Ses yeux effrayés regardaient fixement devant lui, comme s'il eût eu la vision d'un monstre.
« Cher ami, lui dit Armance, j'étais plus malheureuse quand vous me parlâtes avec cruauté auprès de ce même oranger il y a plusieurs mois. Alors je doutais de votre amour. « Que dis-je ? » reprit-elle avec passion. Ce jour fatal, j'eus la certitude que vous ne m'aimiez pas. Ah, mon ami, que je suis plus heureuse aujourd'hui. »
L'accent de vérité avec lequel Armance prononça ces derniers mots sembla diminuer la douleur aigre et méchante à laquelle Octave était en proie. Armance, oubliant sa retenue ordinaire, lui serrait la main avec passion et le pressait de parler. La figure d'Armance se trouva un moment si près de celle d'Octave qu'il sentit la chaleur de sa respiration. Cette sensation l'attendrit. Parler lui devint facile.
« Oui, cher ami, lui dit-il en la regardant enfin, je t'adore, tu ne doutes pas de mon amour. Mais quel est l'homme qui t'adore? C'est un monstre. »
À ces mots, l'attendrissement d'Octave sembla l'abandonner.
Tout à coup, il devint comme furieux, se dégagea des bras d'Armance, qui essaya en vain de le retenir, et prit la fuite. Armance resta sans mouvement. Au même instant, la cloche du déjeuner sonna. Plus morte que vive, elle n'eut besoin que de paraître devant madame de Malivert pour obtenir la permission de ne pas rester à table. Le domestique d'Octave vint dire bientôt après qu'une affaire venait d'obliger son maître à partir au galop pour Paris. Le déjeuner fut silencieux et froid. Le seul être heureux était le commandeur. Frappé de cette absence simultanée des deux jeunes gens, il surprit des larmes d'inquiétude dans les yeux de sa sœur. Il eut un moment de joie. Il lui sembla que l'affaire du mariage n'allait plus aussi bien. « On en rond de plus avancé, » se dit-il à lui-même. Et l'excès de sa préoccupation l'empêchait d'être aimable pour mesdames d'Aumale et de Bonnivet. L'arrivée du marquis, qui venait de Paris, malgré un ressentiment de goutte, et qui montra beaucoup d'humeur lorsqu'il ne vit pas Octave, qui l'avait prévenu de son voyage, augmenta la joie du commandeur. « Le moment est favorable, » se dit-il, pour faire entendre le langage de la raison. À peine le déjeuner fini, mesdames d'Aumale et de Bonnivet remontèrent chez elles. Madame de Malivert passa dans la chambre d'Armance, et le commandeur fut animé, c'est-à-dire heureux, pendant 5 quarts d'heure, qu'il employa à tâcher d'ébranler la résolution de son beau-frère relativement au mariage d'Octave. Il y avait un grand fond de probité dans tout ce que répondait le vieux marquis. « L'indemnité appartient à votre sœur, » disait-il. « Moi, je suis un gueux. C'est cette indemnité qui nous met à même de songer à un établissement pour Octave. Votre sœur désire plus que lui, je crois, ce mariage avec Armance, qui d'ailleurs ne manque pas de fortune. En tout cela, je ne puis, en honnête homme, que donner des avis. » Je ne saurais ici faire parler mon autorité. J'aurais l'air de vouloir priver ma femme de la douceur de passer sa vie avec son ami intime. » Madame de Malivert avait trouvé Armance fort agitée, mais peu communicative. Pressée par l'amitié, Armance parla assez vaguement d'une petite querelle, comme il s'en élève quelquefois entre les gens qui s'aiment le mieux. « Je suis sûre qu'Octave a tort, » dit madame de Malivert en se levant. « Autrement, tu me dirais tout. » Et elle laissa Armance seule. C'était lui rendre un grand service. Il devint bientôt évident pour elle qu'Octave avait commis quelques grands crimes, dont peut-être encore il s'exagérait les funestes conséquences. Et en honnête homme, il ne voulait pas permettre qu'elle liât son sort à celui d'un assassin peut-être, sans lui faire connaître toute la vérité. Oserons-nous dire que cette façon d'expliquer la bizarrerie d'Octave rendit à sa cousine une sorte de tranquillité? Elle descendit au jardin, espérant un peu le rencontrer. Elle se sentait en ce moment entièrement guérie de la jalousie profonde que lui avait inspirée madame d'Aumale. Elle ne s'avouait pas, il est vrai, cette source de l'état d'attendrissement et de bonheur où elle se trouvait. Elle se sentait transportée par la pitié la plus tendre et la plus généreuse. « S'il faut quitter la France, se disait-elle, et nous exiler au loin, fût-ce même en Amérique, eh bien nous partirons, se disait-elle avec joie, et le plus tôt sera le mieux. » Et son imagination s'égara dans des suppositions de solitude complète et d'îles désertes, trop romanesques, et surtout trop usé par les romans pour être rapporté. Ni ce jour-là, ni le suivant, Octave ne parut. Seulement, le soir du second jour, Armance reçut une lettre datée de Paris. Jamais elle n'avait été plus heureuse. La passion la plus vive et la plus abandonnée respirait dans cette lettre. « Ah, s'il eût été ici dans le moment où il a écrit, se dit-elle, il m'eût tout avoué. » Octave lui faisait entendre qu'il était retenu à Paris par la honte de lui dire son secret. « Ce n'est pas dans tous les moments, ajoutait-il, que j'aurai le courage de dire cette parole fatale, même à vous. car elle peut diminuer les sentiments que vous daignez m'accorder et qui sont tout pour moi. Ne me pressez pas à ce sujet, cher ami. »
Armand se hâta de lui répondre par un domestique qui attendait.
« Votre plus grand crime, lui disait-elle, est de vous tenir loin de nous. »
Et sa surprise fut égale à sa joie, quand, une demi-heure après avoir écrit, elle vit paraître Octave, qui était venu attendre sa réponse à la barre près d'Andilly. Les jours qui suivirent furent parfaitement heureux. Les illusions de la passion qui animait Armance étaient si singulières que bientôt elle se trouva habituée à aimer un assassin. Il lui semblait que tel devait être au moins le crime dont Octave hésitait à s'avouer coupable. Son cousin parlait trop bien pour exagérer ses idées, et il avait dit ses propres mots « Je suis un monstre ». Dans la première lettre d'amour qu'elle lui eut écrite de sa vie, elle lui avait promis de ne pas lui faire de questions. Ce serment fut sacré pour elle. La lettre qu'Octave lui avait répondue était un trésor pour elle. Elle l'avait relue 20 fois. Elle prit l'habitude d'écrire tous les soirs à l'homme qui allait être son époux. Et comme elle aurait eu quelque honte de prononcer son nom devant sa femme de chambre, elle cacha sa première lettre dans la caisse de cet oranger qu'Octave devait bien connaître. Elle le lui dit d'un mot un matin, comme on se mettait à table pour déjeuner. Il disparut sous prétexte d'un ordre à donner, et Armand eut le plaisir inexprimable, lorsqu'il rentra un quart d'heure après, de trouver dans ses yeux l'expression du bonheur le plus vif et de la plus douce reconnaissance. Quelques jours après, Armand osa lui écrire. « Je vous crois coupable de quelque grand crime. L'affaire de toute notre vie sera de le réparer, s'il est réparable. Mais, chose singulière, je vous suis peut-être plus tendrement dévouée encore qu'avant cette confidence. Je sens ce qu'a dû vous coûter cet aveu. C'est le premier grand sacrifice que vous m'ayez jamais fait. Et, vous le dirai-je, ce n'est que depuis cet instant que je suis guérie d'un vilain sentiment que moi aussi je n'osais presque vous avouer. Je me figure ce qu'il y a de pis. Ainsi, il me semble que vous n'avez pas à me faire un aveu plus détaillé avant une certaine cérémonie. Vous ne m'aurez point trompé, je vous le déclare. Dieu pardonne au repentir, et je suis sûre que vous vous exagérez votre faute. Fût-elle aussi grave qu'elle puisse l'être, moi qui ai vu vos anxiétés, je vous pardonne. Vous me ferez une entière confidence d'ici à un an. Peut-être alors je vous inspirerai moins de crainte. Je ne puis pas cependant vous promettre de vous aimer davantage. » Plusieurs lettres écrites de ce ton d'angélique bonté avaient presque déterminé Octave à confier par écrit à son ami le secret qu'il lui devait. Mais la honte, l'embarras d'écrire une telle lettre le retenait encore. Il alla à Paris consulter M. Dollier, ce parent qui lui avait servi de témoin. Il savait que M. Dollier avait beaucoup d'honneur, un sens fort droit et point assez d'esprit pour composer avec le devoir ou se faire des illusions. Octave lui demanda s'il devait absolument confier à Mademoiselle de Zoïloff un secret fatal, qu'il n'eût pas hésité à avouer avant son mariage au père ou au tuteur d'Armance. Il alla jusqu'à montrer à M. Dollier la partie de la lettre d'Armance citée plus haut. « Vous ne pouvez vous dispenser de parler, » lui répondit ce brave officier. « Ceci est deux devoirs étroits. Vous ne pouvez vous prévaloir de la générosité de Mademoiselle de Zoïloff. Il serait indigne de vous de tromper qui que ce soit. » Et il serait encore plus au-dessous du noble Octave de tromper une pauvre orpheline qui n'a peut-être que lui pour ami parmi tous les hommes de la famille. Octave s'était dit toutes ces choses 1000 fois, mais elles prirent une force toute nouvelle en passant par la bouche d'un homme honnête et ferme. Octave crut entendre la voix du destin. Il prit congé de M. Dollier
en se jurant d'écrire la lettre fatale dans le premier café qu'il rencontrerait à sa main droite en sortant de chez son parent. Il tint parole. Il écrivit une lettre de 10 lignes et y mit l'adresse de Mademoiselle de Zoïlov au château de Préandy. En sortant du café, il chercha des yeux une boîte aux lettres. Le hasard voulut qu'il n'en vit pas. Bientôt, un reste de ce sentiment pénible qui le portait à retarder un tel aveu le plus possible vint lui persuader qu'une lettre de cette importance ne devait pas être confiée à la poste, qu'il était mieux de la placer lui-même dans la caisse d'oranger du jardin d'Andy. Octave n'eut pas l'esprit de reconnaître dans l'idée de ce retard une dernière illusion d'une passion à peine vaincue. L'essentiel, dans sa position, était de ne pas céder d'un pas à la répugnance que les conseils sévères de M. d'Ollier venaient de l'aider à surmonter. Il monta à cheval pour porter sa lettre à Andy. Depuis la matinée où le commandeur avait eu le soupçon de quelque mésintelligence entre les amants, la légèreté naturelle de son caractère avait fait place à un désir de nuire assez constant. Il avait pris pour confident le chevalier de Bonnivet. Tout le temps que le commandeur employait naguère à rêver à des spéculations de bourse et à écrire des chiffres dans un carnet, il le consacrait maintenant à chercher les moyens de rompre le mariage de son neveu. Ses projets, d'abord, n'étaient pas fort raisonnables. Le chevalier de Bonnivet régularisa ses moyens d'attaque. Il lui suggéra de faire suivre Armance, et, au moyen de quelques louis, le commandeur fit des espions de tous les domestiques de la maison. On lui dit qu'Octave et Armance s'écrivaient et cachaient leurs lettres dans l'intérieur de la caisse d'un oranger portant tel numéro. Une telle imprudence parut incroyable au chevalier de Bonnivet. Il laissa le commandeur y rêver. Voyant au bout de 8 jours que M. de Soubirane ne trouvait rien au-delà de l'idée commune de lire les phrases d'amour de 2 amants, il le fit souvenir adroitement que, parmi 20 goûts différents, il avait eu, pendant 6 mois, celui des lettres autographes. Le commandeur employait alors un calqueur fort habile. Cette idée parut dans sa tête, mais ne produisit rien. Elle y était cependant, à côté d'une haine très vive. Le chevalier hésitait beaucoup à se hasarder avec un tel homme. La stérilité de son associé le décourageait. D'ailleurs, au premier revers, il pouvait tout avouer. Heureusement, le chevalier se souvint d'un roman vulgaire où le personnage méchant fait imiter l'écriture des amants et fabrique de fausses lettres. Le commandeur ne lisait guère, mais il avait adoré les belles reliures. Le chevalier se résolut à tenter un dernier essai. S'il ne réussissait pas, il abandonnait le commandeur à toute l'aridité de ses moyens. Un ouvrier de Touvenin, magnifiquement payé, travailla nuit et jour et revêtit d'une reliure superbe le roman où l'on employait l'artifice de fabriquer des lettres. Le chevalier prit ce livre magnifique, l'apporta à Andilly et tacha avec du café la page où la supposition des lettres était expliquée. « Je suis au désespoir, » dit-il un matin au commandeur en entrant dans sa chambre. « Madame de, qui est folle de ses livres, comme vous savez, a fait relier d'une manière admirable ce roman pitoyable. J'ai eu la sottise de le prendre chez elle, j'ai taché une page. Vous, qui avez rassemblé ou inventé des secrets étonnants pour tout, ne pourriez-vous pas m'indiquer le moyen de fabriquer une page nouvelle ?» Le chevalier, après avoir beaucoup parlé et employé les mots les plus voisins de l'idée qu'il voulait inspirer, laissa le volume dans la chambre du commandeur. Il lui en parla bien 10 fois avant que M. de Soubirane eût l'idée de brouiller les 2 amants par de fausses lettres. Il en fut si fier que d'abord il s'exagéra son importance. Il en parla dans ce sens au chevalier, qui eut horreur d'un moyen si immoral, et le soir partit pour Paris. 2 jours après, le commandeur, en lui parlant, revint sur cette idée. « Une supposition de l'être est atroce !» s'écria le chevalier. « Aimez-vous votre neveu avec une affection assez vive pour que la fin puisse justifier le moyen ?» Mais le lecteur est peut-être aussi las que nous de ces tristes détails. Détails où l'on voit les produits gangrénés de la nouvelle génération lutter avec la légèreté de l'ancienne. Le commandeur, prenant toujours en pitié la candeur du chevalier, lui prouva que, dans une cause à peu près désespérée, le moyen le plus sûr d'être battu était de ne rien tenter. Monsieur de Soubirane prit sans affectation, sur la cheminée de sa sœur, plusieurs échantillons de l'écriture d'Armance, et obtint facilement de son calqueur des copies qu'il était difficile de distinguer des originaux. Il bâtissait déjà, pour la rupture du mariage d'Octave, les suppositions les plus décisives sur les intrigues de l'hiver, les distractions du bal, les propositions avantageuses qu'il pourrait faire faire à la famille. Le chevalier de Bonnivet admirait ce caractère. « Que cet homme-là n'est-il ministre ? » se disait-il. « Les plus hautes dignités seraient à moi. » Mais avec cette exécrable charte, les discussions politiques, la liberté de la presse, jamais un tel être ne serait ministre, de quelque haute naissance qu'il pût se vanter. Enfin, après 15 jours de patience, le commandeur eut l'idée de composer une lettre d'Armance à Méry de Tersan, son ami intime. Le chevalier fut pour la seconde fois sur le point de tout abandonner. Monsieur de Soubirane avait employé 2 jours à faire un modèle de lettre pétillant d'esprit et surchargé d'idées fines, réminiscence de celle qu'il écrivait en 1789. « Notre siècle est plus sérieux que cela, » lui dit le chevalier. « Soyez plutôt pédant, grave, ennuyeux. Votre lettre est charmante. Le chevalier de Laclos ne l'eût pas désavouée. Mais elle ne trompera personne aujourd'hui. » « Toujours aujourd'hui, aujourd'hui !» reprit le commandeur. « Votre Laclos n'était qu'un fat. Je ne sais pourquoi, vous autres jeunes gens, vous en faites un modèle. Ces personnages écrivent comme des perruquiers. » Etc., etc. Le chevalier fut enchanté de la haine du commandeur pour monsieur de Laclos. Il défendit ferme l'auteur des liaisons dangereuses, fut battu complètement, et enfin obtint un modèle de lettres point assez emphatique et allemand, mais enfin à peu près raisonnable. Le modèle de lettres arrêté, après une discussion si orageuse, fut présenté par le commandeur à son calqueur d'autographe, qui, croyant qu'il ne s'agissait que de propos galants, n'opposa que la difficulté nécessaire pour se faire bien payer, et imita à s'y tromper l'écriture de mademoiselle de Zoïloff. Armand s'était supposé écrire à son ami Méry de Tersan une longue lettre sur son prochain mariage avec Octave. En arrivant à Andilly avec la lettre écrite d'après les conseils de monsieur d'Ollier, l'idée dominante d'Octave, pendant toute la route, avait été d'obtenir d'Armance qu'elle ne lirait sa lettre que le soir, après qu'ils se seraient séparés. Octave comptait partir le lendemain de grand matin. Il était bien sûr qu'Armance lui répondrait. Il espérait ainsi diminuer un peu l'embarras d'une première entrevue après un tel aveu. Octave ne s'y était déterminé que parce qu'il trouvait de l'héroïsme dans la façon de penser d'Armance. Depuis bien longtemps, il n'avait pas surpris un quart d'heure de la vie d'Armance qui ne fût dominé par le bonheur ou par le chagrin produit par le sentiment qui les unissait. Octave ne doutait pas qu'elle n'eût pour lui une passion violente. En arrivant à Andilly, il sauta de son cheval, courut au jardin, et en cachant sa lettre sous quelques feuilles dans le coin de la caisse d'oranger, il en trouva une d'Armance. Chapitre 30. Il s'enfonça rapidement sous une allée de tilleuls pour pouvoir la lire sans être interrompu. Il vit par les premières lignes que cette lettre était écrite pour mademoiselle Méry de Tersan. C'était la lettre composée par le commandeur. Mais les premières lignes l'avaient tellement inquiété qu'il continua et lut. « Je ne sais comment répondre à tes reproches. Tu as raison, ma bonne amie. Je suis folle de me plaindre. Cet arrangement est sous tous les rapports bien au-dessus de ce que pouvait espérer une pauvre fille riche de la veille et sans famille pour l'établir et la protéger. C'est un homme d'esprit et de la plus haute vertu. Peut-être en a-t-il trop pour moi. Te l'avouerai-je, les temps sont bien changés. Ce qui eût comblé ma félicité il y a quelques mois n'est plus qu'un devoir. Le ciel m'a-t-il refusé la faculté d'aimer constamment? Je termine un arrangement raisonnable et avantageux. Je me le dis sans cesse. Mais mon cœur n'éprouve plus ces doux transports que me donnait la vue de l'homme le plus parfait qui, à mes yeux, exista sur la terre, du seul être qui mérita d'être aimé. Je vois aujourd'hui que son humeur est inégale. Ou plutôt, pourquoi l'accuser? Il n'a pas changé, lui. Tout mon malheur, c'est qu'il y ait de l'inégalité dans mon cœur. Je vais faire un mariage avantageux, honorable, de toute manière. Mais, chère Mary, je rougis de te l'avouer. Je n'épouse plus l'être que j'aimais par-dessus tout. Je le trouve sérieux et quelquefois peu amusant. Et c'est avec lui que je vais passer toute ma vie. Probablement dans quelque château solitaire, au fond de quelque province où nous propagerons l'enseignement mutuel et la vaccine. Peut-être, cher ami, regretterai-je le salon de Madame de Bonnivet. Qui nous l'eût dit il y a 6 mois? Cette étrange légèreté de mon caractère est ce qui m'afflige le plus. Octave n'est-il pas le jeune homme le plus remarquable que nous ayons vu cet hiver? Mais j'ai passé une jeunesse si triste. Je voudrais un mari amusant. Adieu. Après-demain, l'on me permet d'aller à Paris. À 11 heures, je serai à ta porte. Octave resta frappé d'horreur. Tout à coup, il se réveilla comme d'un songe et courut reprendre la lettre qu'il venait de déposer dans la caisse d'oranger. Il la déchira avec rage et mit les fragments dans sa poche. « J'avais besoin, se dit-il froidement, de la passion la plus folle et la plus profonde pour qu'on pût me pardonner mon fatal secret. Contre toute raison, contre ce que je m'étais juré pendant toute ma vie, j'ai cru avoir rencontré un être au-dessus de l'humanité. Pour mériter une telle exception, il eût fallu être aimable et gai, et c'est ce qui me manque. Je me suis trompée. Il ne me reste qu'à mourir. Ce serait sans doute péché contre l'honneur que de ne pas faire d'aveu, si j'enchaînais pour toujours la destinée de Mademoiselle de Zoïlov. Mais je puis la laisser libre dans 1 mois. Elle sera une veuve jeune, riche, fort belle, sans doute fort recherchée. Et le nom de Malivert lui vaudra mieux pour trouver un mari amusant que le nom encore peu connu de Zoïlov. » Ce fut dans ces sentiments qu'Octave entra chez sa mère, où il trouva Armance qui parlait de lui et songeait à son prochain retour. Bientôt elle fut aussi pâle et presque aussi malheureuse que lui. Et cependant il venait de dire à sa mère qu'il ne pouvait supporter les délais qui retardaient son mariage. « Bien des gens voudraient troubler mon bonheur, » avait-il ajouté. « J'en ai la certitude. Quel besoin avons-nous de tant de préparatifs? Armance est plus riche que moi, et il n'est pas probable que des robes ou des bijoux lui manquent jamais. J'ose espérer qu'avant la fin de la seconde année de notre union, elle sera gaie, heureuse, jouissant de tous les plaisirs de Paris, et qu'elle ne se repentira jamais de la démarche qu'elle va faire. Je pense que jamais elle ne sera claquemurée à la campagne dans quelque vieux château. » Il y avait quelque chose de si étrange dans le son des paroles d'Octave, et de si peu d'accord avec le vœu qu'elles exprimaient, que presque en même temps, Armance et Madame de Malivert sentirent leurs yeux se remplir de larmes. Armance eut à peine la force de répondre. « Ah, chère amie, que vous êtes cruelle !» Fort mécontent de ne pas avoir joué le bonheur, Octave sortit brusquement. La résolution de terminer son mariage par la mort donnait à ses manières quelque chose de sec et de cruel. Après avoir pleuré avec Armance de ce qu'elle appelait la folie de son fils,
Madame de Malivert conclut que la solitude ne valait rien à un caractère naturellement sombre. « L'aimes-tu toujours, malgré ce défaut dont il est le premier à souffrir ?» dit Madame de Malivert. « Consulte ton cœur, ma fille. Je ne veux pas te rendre malheureuse. Tout peut se rompre encore. » « Ah, maman, je crois que je l'aime encore davantage depuis que je ne le crois plus si parfait. »« Eh bien, ma petite, » reprit Madame de Malivert, « je ferai ton mariage dans 8 jours. D'ici là, sois indulgente pour lui. Il t'aime, tu n'en peux douter. Tu sais quelle idée il a de ses devoirs envers ses parents. Et cependant, tu as vu sa fureur quand il te crut en butte aux mauvais propos de mon frère ? Sois douce et bonne, ma chère fille, avec cet être que rend malheureux quelques préjugés bizarres contre le mariage. » Armance, à laquelle ces paroles jetées au hasard présentaient un sens si vrai, redoubla d'attentions et de dévouement tendre pour Octave. Le lendemain, de grand matin, Octave vint à Paris et dépensa une somme fort considérable, à peu près les 2/3 de tout ce dont il pouvait disposer, pour acheter des bijoux de grand prix qu'il fit placer dans la corbeille de mariage. Il passa chez le notaire de son père et fit ajouter au contrat de mariage des clauses extrêmement avantageuses à la future épouse et qui, en cas de veuvage, lui assuraient la plus brillante indépendance. Ce fut par des soins de ce genre qu'Octave remplit les 10 jours qui s'écoulèrent entre la découverte de la prétendue lettre d'Armance et son mariage. Ces jours furent pour Octave plus tranquilles qu'il n'eût osé l'espérer. Ce qui, pour les âmes tendres, rend le malheur si cruel, c'est une petite lueur d'espérance qui, quelquefois, subsiste encore. Octave n'en avait aucune. Son parti était arrêté. Et pour les âmes fermes, quelque dur que soit le parti pris, il dispense de réfléchir sur son sort et ne demande plus que le courage d'exécuter exactement. Et c'est peu de chose. Ce qui frappait le plus Octave, quand les préparatifs nécessaires et les soins de tout genre le laissaient à lui-même, c'était un long étonnement. Quoi ? Mademoiselle de Zoïlov n'était plus rien pour lui ? Il s'était tellement accoutumé à croire fermement à l'éternité de son amour et de leur liaison intime qu'à chaque instant il oubliait que tout était changé. Il ne pouvait se figurer la vie sans Armance. Chaque matin, presque, il avait besoin à son réveil de s'apprendre son malheur. Il y avait un moment cruel, mais bientôt l'idée de la mort venait le consoler et rendre le calme à son cœur. Toutefois, vers la fin de cet intervalle de 10 jours, l'extrême tendresse d'Armance lui donna quelques moments de faiblesse. Dans leur promenade solitaire, se croyant autorisée par leur mariage si prochain, Armance se permit une ou deux fois de prendre la main d'Octave, qu'il avait fort belle, et de la porter à ses lèvres. Ce redoublement de soins tendres, qu'Octave remarqua fort bien, et auquel, malgré lui, il était extrêmement sensible, rendit souvent vive et poignante une douleur qu'il croyait avoir surmontée. Il se figurait ce qu'eussent été ses caresses venant d'un être qu'il eût véritablement aimé, venant d'Armance, tel que, d'après son propre aveu, dans la lettre fatale à Méry de Tersan, elle était encore 2 mois auparavant. Et mon peu d'amabilité et de gaieté a pu faire cesser son amour, se disait Octave avec amertume. Hélas, c'était l'art de me faire bien venir dans le monde qu'il fallait apprendre, au lieu de me livrer à tant de vaines sciences. À quoi m'ont-elles servi ? À quoi m'ont servi mes succès auprès de Madame d'Aumale ? Elle m'eût aimé si je l'eusse voulu. Je n'étais pas fait pour plaire à ce que je respecte. Apparemment qu'une timidité malheureuse me rend triste, peu aimable, quand je désire passionnément de plaire. Armance m'a toujours fait peur. Je ne l'ai jamais approchée sans sentir que je paraissais devant le maître de ma destinée. Il aurait fallu demander à l'expérience et à ce que je voyais se passer dans le monde des idées plus justes sur l'effet que produit un homme aimable qui veut intéresser une jeune fille de 20 ans.
Mais tout cela est inutile désormais, disait Octave en souriant tristement. Ma vie est finie. Vixi et quem dederat sortem fortuna peregi. Dans certains moments d'humeur sombre, Octave allait jusqu'à voir dans les manières tendres d'Armance, si peu d'accord avec l'extrême retenue qui lui était si naturelle, l'accomplissement d'un devoir désagréable qu'elle s'imposait. Rien alors n'était comparable à la rudesse de sa conduite qui réellement avoisinait l'apparence de la folie. Moins malheureux dans d'autres instants, il se laissait toucher par la grâce séduisante de cette jeune fille qui allait être son épouse. Il eût été difficile, en effet, de rien imaginer de plus touchant et de plus noble que les manières caressantes de cette jeune fille, ordinairement si réservée, faisant violence aux habitudes de toute sa vie, pour essayer de rendre un peu de calme à l'homme qu'elle aimait. Elle le croyait victime de remords, et cependant éprouvait pour lui une passion violente. Depuis que la grande affaire de la vie d'Armance n'était plus de cacher son amour et de se le reprocher, Octave lui était devenu encore plus cher. Un jour, dans une promenade vers les bois des coins, émue elle-même par les mots tendres qu'elle se permettait, Armance alla jusqu'à lui dire, et elle était de bonne foi dans ce moment, « J'ai quelquefois des idées de commettre un crime égal au tien pour mériter que tu ne me craignes plus. » Octave, séduit par l'accent de la vraie passion et comprenant toute sa pensée, s'arrêta pour la regarder fixement, et peu s'en fallut qu'il ne lui remît la lettre d'aveu, dont il portait toujours les fragments sur lui. En portant la main dans la poche de son habit, il sentit le papier plus fin de la prétendue lettre destinée à Mary de Tersan, et sa bonne intention fut glacée.
Chapitre 31. If he be turned to earth, let me but give him one hearty kiss, and you shall put us both in one coffin. Webster.
Octave était tenu à un grand nombre de démarches nécessaires auprès de grands-parents qu'il savait désapprouver extrêmement son mariage. Dans des circonstances ordinaires, rien n'eût été plus pénible pour lui. Il fut sorti malheureux et presque dégoûté du bonheur des hôtels de ses illustres parents. À son grand étonnement, il observa, en remplissant ses devoirs, que rien ne lui était pénible. C'est que rien ne lui inspirait plus d'intérêt. Il était mort au monde. Depuis l'inconstance d'Armance, les hommes étaient pour lui des êtres d'une espèce étrangère. Rien ne pouvait les mouvoir, pas plus les malheurs de la vertu que la prospérité du crime. Une voix secrète lui disait « Ces malheureux le sont moins que toi. » Octave s'acquitta avec une indifférence admirable de ce que la civilisation moderne a entassé de démarches sottes pour gâter un beau jour. Le mariage se fit. Profitant d'un usage qui commence à s'établir, Octave partit aussitôt avec Armance pour la terre de Malhiver, située en Dauphiné, et dans le fait, il la conduisit à Marseille. Là, il lui apprit qu'il avait fait vœu d'aller montrer en Grèce que, malgré son dégoût pour les manières militaires, il pouvait manier une épée. Armance était si heureuse depuis son mariage qu'elle consentit sans désespoir à cette séparation momentanée. Octave lui-même, ne pouvant se dissimuler le bonheur d'Armance, eut la faiblesse, bien grande à ses yeux, de retarder son départ de 8 jours, qu'il employa à visiter avec elle la Sainte-Baume, le château Borelli et les environs de Marseille. Il était attendri du bonheur de sa jeune épouse. « Elle joue la comédie, » se disait-il, « et sa lettre de Mary me le prouve évidemment. » Mais elle la joue si bien. Il eut des moments d'illusion où la félicité parfaite d'Armance finissait par le rendre heureux. Quelle autre femme au monde, se disait Octave, même par des sentiments plus sincères, pourrait me donner autant de bonheur? Enfin, il fallut se séparer. À peine embarqué, Octave paya cher ses moments d'illusion. Pendant quelques jours, il ne se trouva plus le courage de mourir. Je serai le dernier des hommes, se disait-il, et un lâche à mes propres yeux, si d'après ma condamnation prononcée par le sage d'Ollier, je ne rends pas bientôt Armance à la liberté. Je perds peu de choses à quitter la vie, ajoutait-il en soupirant. Si Armance joue l'amour avec tant de grâce, ce n'est qu'une réminiscence. Elle se rappelle ce qu'elle sentait pour moi autrefois. Je n'aurais pas tardé à l'ennuyer. Elle m'estime probablement, mais n'a plus pour moi de sentiments passionnés, et ma mort l'affligera sans la mettre au désespoir. Cette cruelle certitude finit par faire oublier à Octave la divine beauté d'Armance enivrée de bonheur, et se pâmant dans ses bras la veille de son départ. Il reprit du courage, et dès le troisième jour de navigation, avec le courage, la tranquillité reparut. Le vaisseau se trouvait par le travers de l'île de Corse. Le souvenir d'un grand homme mort si malheureux apparut à Octave et vint lui rendre de la fermeté. Comme il pensait à lui sans cesse, il l'eut presque pour témoin de sa conduite. Il feignit une maladie mortelle. Heureusement, le seul officier de santé qu'on eut à bord était un vieux charpentier qui prétendait se connaître à la fièvre, et il fut le premier trompé par le délire et l'état affreux d'Octave. Grâce à quelques moments d'affectation, Octave vit au bout de 8 jours qu'on désespérait de son retour à la vie. Il fit appeler le capitaine dans ce qu'on appelait un de ses moments lucides, et dicta son testament, que signèrent comme témoins les 9 personnes composant l'équipage. Octave avait eu le soin de déposer un testament semblable chez un notaire de Marseille. Il laissait tout ce dont il pouvait disposer à sa femme, sous la condition bizarre qu'elle se remarierait dans les 20 mois qui suivraient son décès. Si Madame Octave de Malivert ne jugeait pas à propos de remplir cette condition, il priait sa mère d'accepter sa fortune. Après avoir signé son testament en présence de tout l'équipage, Octave tomba dans une grande faiblesse et demanda les prières des agonisants, que quelques matelots italiens récitèrent auprès de lui. Il écrivit à Armance et mit dans sa lettre celle qu'il avait eu le courage de lui écrire dans un café de Paris, et la lettre à son ami Mairie de Tersan, qu'il avait surprise dans la caisse de l'oranger. Jamais Octave n'avait été sous le charme de l'amour le plus tendre, comme dans ce moment suprême. Excepté le genre de sa mort, il s'accorda le bonheur de tout dire à son Armance. Octave continua à languir pendant plus d'une semaine. Chaque jour, il se donnait le nouveau plaisir d'écrire à son ami. Il confia ses lettres à plusieurs matelots, qui lui promirent de les remettre eux-mêmes à son notaire à Marseille. Un mousse, du haut de la vigie, cria « Terre !» C'était le sol de la Grèce et les montagnes de la Morée que l'on apercevait à l'horizon. Un vent frais portait le vaisseau avec rapidité. Le nom de la Grèce réveilla le courage d'Octave. « Je te salue, se dit-il, ô terre des héros !» Et à minuit, le 3 de mars, comme la lune se levait derrière le mont Kalos, un mélange d'opium et de digital, préparé par lui, délivra doucement Octave de cette vie qui avait été pour lui si agitée. Au point du jour, on le trouva sans mouvement sur le pont, couché sur quelques cordages. Le sourire était sur ses lèvres, et sa rare beauté frappa jusqu'au matelot chargé de l'ensevelir. Le genre de sa mort ne fut soupçonné en France que de la seule Armance. Peu après, le marquis de Malivert étant mort, Armance et Madame de Malivert prirent le voile dans le même couvent.